Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous avais parlé avec Monsieur Rocard des vitraux de Gabriel Loire. Eh bien, c'était la saison 1 de cette dynastie, de cette saga. Eh bien, dans la saison 2 de la famille Loire, eh bien, je vais recevoir le fils pour nous parler des vitraux du père, de cette saga familiale, de ses talents, de cette création, de ces merveilles qui donnent de la lumière aux différents édifices qu'ils ont fait, édifié, créé sur les 5 continents. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jacques Loire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes, pour ce merveilleux livre Vitraux, qui est consacré, je dirais, à l'œuvre de votre père, mais on va également parler de cette dynastie, deuxième et troisième génération, dirais-je, de vos créations. Alors, un tel livre, bien évidemment, ça demande certainement beaucoup de travail. Comment a-t-il été élaboré? Comment y avez-vous travaillé?
Bien, écoutez, tout d'abord, il faut féliciter Alain Rocard qui s'est passionné pour le travail de mon père dans cette église de Kervignac, au sujet des vitraux qui font le pourtour d'un bandeau en pourtour de toute l'église. Mm-hmm. Donc il est venu jusqu'aux sources, c'est-à-dire à l'atelier où nous avons la chance d'avoir des archives assez complètes de tous les travaux qui ont été réalisés par mon père, mm-hmm. par moi et maintenant par mes deux fils qui ont repris la direction de l'atelier.
Ils ont repris le flambeau, dirons-nous.
Ah, voilà. Ils ont repris la passion, parce que je crois que c'est un métier qu'on l'on fait par amour et par passion.
Mm-hmm. Alors, je disais, donc, le livre est consacré au travail de votre père qui a été un merveilleux créateur. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Mon père avait déjà fait du vitrail avant-guerre. Mm-hmm. La guerre a interrompu beaucoup de choses. Oui. Et puis, dès 1946-1948, il a créé son propre atelier à Lèves, où je suis encore, où j'habite encore, tout près de l'atelier, dans mm-hmm. une belle propriété.
Alors, nous avons évoqué avec M. Rocard les différents édifices, entre autres une liste non exhaustive où apparaît les œuvres de votre père. Il y en a à Chartres, il m'a parlé du Japon, on a évoqué beaucoup de choses. Comment reçoit-on un tel héritage?
Eh bien, pour moi, si vous voulez, je crois que je suis né dedans, puisque j'ai toujours vu mon père dessiner à la maison, puisque tout se passait dans le bureau qui était la pièce atelier de la maison familiale. Nous oui. étions 6 enfants. Et je l'ai reçu comme ça, ça faisait partie de la vie de la famille. Oui. Donc, tout naturellement, comme ça se passait beaucoup à cette époque, j'ai souhaité poursuivre le travail de mon père et travailler avec lui. Donc très jeune, j'ai commencé à dessiner, à réaliser des vitraux dans l'atelier, sous sa direction. Mm-hmm. Alors là, bon, il y a des aspects très positifs et des aspects un peu négatifs. C'est toujours un peu difficile d'être le fils de quelqu'un. Petit à petit, oui. bien, et en grande partie grâce à ma femme qui a travaillé avec moi aussi, mm-hmm. Je me suis libéré, si je puis dire, de l'emprise technique et dessin pour trouver, je pense, mon propre style.
Oui. Et vos fils, donc, également, sont, comme Obélix, sont tombés dans la marmite aussi quand ils étaient petits.
Exactement, de la même façon. Mais ils ne l'ont pas reçu de la même façon. Oui. Mon fils aîné a souhaité faire d'autres études, d'autres types de recherches. Mm-hmm. Et puis, alors que le fils second, dès le départ, dès la troisième, a dit « Oh, moi, ça m'intéresserait de poursuivre, de travailler avec toi. Mm-hmm. » Et il a suivi un cursus plus important que moi, puisque maintenant, il y a beaucoup plus d'études un peu pour tout. Oui. Il est allé à l'École nationale supérieure des arts appliqués à Paris. Mm-hmm. Il a fait des stages un peu en France et puis même à l'étranger, aux États-Unis. Et mon fils aîné, qui avait fait des études de géographie, au bout de quelques années, avec une opportunité de travailler avec un artiste qui s'appelait Valerio Adami, comme assistant, il est revenu à l'atelier.
Alors, comment qualifieriez-vous la création de votre père, la vôtre et celle de vos fils? C'est différent, chacun a sa spécificité, sa création, sa propre innovation?
Oui, parce que en plus, les temps ont changé. Hein.
Bien sûr.
On ne vit plus de la même façon du temps de mon père, de moi et de mes fils. Alors, parce que nous travaillons essentiellement avec des architectes pour l'architecture, pour être pour que nos œuvres soient incorporées dans l'architecture. Donc l'époque des églises et même des cathédrales très, très importantes est un peu passée. Donc nous travaillons plus pour des bâtiments civils, des maisons privées. Là, j'ai un gros projet pour le Japon, pour une école d'infirmières. Bruno va travailler pour une mairie. Enfin, vous voyez que le métier s'est diversifié. Il n'y a plus les très, très grands chantiers tels que j'ai pu les connaître avec mon père.
Quel regard jetait votre père ou vous savez, sur les grands édifices, les premières grandes cathédrales, dirais-je, du 11e, 12e et 13e siècle, que ce soit Notre-Dame ou à Kingsbridge en Angleterre ou bien ailleurs? Quel regard avez-vous sur ça? Parce que ces maîtres verriers, c'était aussi quelque chose d'exceptionnel aussi.
Non seulement c'était un regard, mais ça a été un peu notre vie.
Oui.
Mon père s'était installé à Chartres, tout près de la cathédrale.
Oui.
Et c'est une ville où je suis né. La cathédrale a été ma paroisse pendant très longtemps. Donc j'ai vécu même la période de la guerre où il n'y avait plus de vitraux. J'ai vu la cathédrale renaître avec ses vitraux. Renaître avec des vitraux restaurés. Donc c'est aussi toute une transmission de lumière qui s'est passée au travers de ma vie. Et c'est un enseignement très fort qui certainement imprègne un peu beaucoup imprégné les travaux de mon père. Et moi, dans certains cas, oui, je retrouve le fameux bleu de Chartres, entre autres, dont on parle beaucoup, et qui c'est vrai que c'est une couleur mystique, une couleur très forte, et que j'aime utiliser dans mes créations.
Comment se passe une journée, moi j'ai envie de dire, d'un maître verrier comment ça se passe? Comment viennent l'idée, le projet, la création, la couleur? Bon, vous avez des couleurs mythiques, mais comment ça se passe le travail? Si vous avez un gros dossier, un chantier, on vous propose un projet, mais la création, c'est vous qui apportez l'idée?
Ah oui, ça si vous voulez, la création est un acte personnel.
Oui.
Donc, même on se met, avec mes fils, on se met quelquefois en concurrence. C'est-à-dire qu'on on a les mêmes questionnements de quelqu'un qui vient nous voir, qui souhaite des vitraux, et quelquefois on se met en concurrence. Mais la plupart du temps, comme j'ai dégagé un style assez graphique par rapport à mon fils qui est plus figuratif et un autre qui est plus minimaliste, les gens qui viennent, on discute et disent « Tiens, ben, je préfère telle chose, telle chose, telle chose. » Donc c'est plutôt dans ce cas-là, l'un ou l'autre qui suit le dossier, qui fait la création. Et alors la création, ben, c'est une grande aventure. Hein. Elle démarre dès ses premiers contacts, où on se met à rêver sur ce qu'on aimerait voir se réaliser dans cet édifice, ce bâtiment ou cette paroi lumineuse. Et là, il y a un peu un mystère, si vous voulez. On y réfléchit. D'abord, je crois qu'il faut prendre du recul par rapport aux demandes. Et puis réfléchir, crayonner, dessiner. Et puis un jour, ça s'épure, et on arrive à quelque chose que l'on présente.
Quand on fait rentrer la lumière comme ça dans un édifice, c'est une lumière qui peut être chamarrée de différentes couleurs, du bleu, du rouge, au travers de petits personnages ou de choses figuratives ou autres. Quand on fait rentrer cette lumière et que le travail est fait, est-ce qu'on a l'impression d'avoir dompté la lumière ?
Oh non, non, ça serait pas trop honteux. Non, on se sert de la lumière, bien sûr, parce qu'elle elle varie, elle change, et c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs.
Oui.
Mais on a effectivement, on a une grande responsabilité, je trouve, en tant que maître verrier, de non pas de dompter, mais de profiter de la lumière pour
l'apprivoiser.
Créer.
L'apprivoiser, ce serait plus juste.
L'apprivoiser, oui, ça serait plus juste. Et alors, vous voyez, j'ai même eu le cas de, pour une salle des ventes aux enchères. On m'a demandé de faire des vitraux dans un bâtiment qui est très beau. Et là, bon, il fallait que, que mes vitraux ne dénaturent pas les objets qui étaient à vendre. Donc, vous voyez, dans certains cas, il faut rester très, très simple, très sobre.
Très humble.
Très humble aussi.
Aussi.
Et puis se mettre à la place de celui qui va vivre dans les lieux. Si vous voulez, on ne réagit pas de la même façon pour... là, j'ai un petit oratoire privé pour lequel je dois faire des vitraux. Mais il est certain que je ferai quelque chose de, je pense, de très simple, de très calme. Alors que dans une église paroissiale, par exemple, ou une salle des fêtes, ou quelque chose, là, on peut se permettre beaucoup plus d'exubérance dans la couleur, dans le choix des couleurs.
Concernant le client, parce que évidemment ce sont des clients, c'est peut-être aussi des partenaires. Est-ce que l'objet, la chose qui est à construire, dans lequel vous allez le magnifier par les vitraux, c'est quelque chose qui devient presque humain, qui s'humanise au fur et à mesure de l'élaboration des vitraux ou du vitrail?
Oui, je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens de votre
C'est-à-dire
question.
C'est-à-dire que l'objet devient vivant, vous voyez ce que je veux dire?
Ah ben oui, oui. Enfin, je dis souvent que le vitrail, c'est une grande aventure. Hein, ça débute par un contact. Ça se poursuit par un programme qui peut être donné ou une grande liberté qui nous est laissée en nous disant imaginez ce que vous voulez.
Oui.
Donc là, il y a tout un cheminement intellectuel qui se met en route et il faut bien le concrétiser à un moment. Hein, si vous voulez, il faut présenter une maquette, il faut faire une maquette pour se dire tiens, ben, voilà ce qu'on peut envisager. Mais quelquefois, il arrive que pour certains projets, je réalise deux ou trois maquettes parce que la première soit ne me satisfait pas complètement, soit je me dis je peux peut-être explorer d'autres expressions, d'autres façons de faire. Et souvent, je reviens à la première idée.
Oui.
Qui s'est formé dans la tête.
Bien. Eh bien, écoutez, comme première idée, moi, je vous propose une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Merci. Thank you.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Jacques Loire pour ce merveilleux livre Vitraux sur l'œuvre de son père. En regardant votre livre, je me suis posé plein de questions. Vous savez, moi, ça m'a toujours passionné, les maîtres verriers, que ce soit du 12e, des premières cathédrales ou jusqu'à nos jours. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont fascinés, une forme d'éblouissement par rapport aux vitraux, une sorte d'émerveillement? Est-ce que c'est vrai,
très nettement. Je me permets de vous reprendre un petit peu, ce n'est pas mon livre, hein, c'est le livre de M. Rocard.
Ou de M. Rocard, tout à fait. Oui.
Voilà. Mm. Non, mais avec l'œuvre de mon père, Gabriel. Mm. Mm. Oui, il est certain que on a la chance de jouer avec... Vous parliez de la lumière tout à l'heure. La lumière est très importante et quand on nous appelle quelquefois des passeurs de lumière, vous voyez, on se permet de la modifier, de l'amplifier, de lui donner certains accents. Mmh. Et je le vois par rapport aux nombreux visiteurs qui viennent dans notre atelier. Il y a toujours cette magie du vert de couleur. Ça, il y a un côté extraordinaire de magie, de transformation de la lumière extérieure vers la lumière intérieure.
Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment, au travers du temps et des siècles, d'appartenir à, j'irais, à une congrégation de maîtres verriers qui, au travers du temps, ont fait des choses magnifiques et qui perdurent dans le temps? Malgré tout, est-ce que c'est un bonheur de voir son travail perdurer dans le temps et qu'il donne autant de bonheur et de joie aux gens? C'est valorisant?
Ah oui, très certainement. Si vous voulez, la meilleure des satisfactions, c'est quand quelqu'un a visité tel ou tel édifice et par hasard on le rencontre, on dit tiens, c'est vous qui avez fait ça, etc. C'est pas mal, c'est bien. Mm. Là, on se sent heureux d'avoir laissé une trace.
Oui.
Bon, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours égale parce qu'on n'est pas égal en tout. Mais... j'ai quand même l'impression, quand on me demande de faire quelque chose, de faire une maquette, de faire un vitrail, de travailler pour l'éternité, c'est très présomptueux, mais de travailler pour d'autres aussi. Mm-hmm. D'abord pour celui qui vont vivre, mais aussi pour leurs enfants, petits-enfants, les descendants. Mm. Alors jusqu'où ça ira, ça on ne sait pas, parce que la vie change beaucoup. Et il m'arrive malheureusement d'apprendre que tel ou tel édifice, surtout dans les églises, ne servant plus, change de fonction, etc. Et ça, c'est un côté un peu triste. Mm. Alors que on a un sentiment de joie,
de fierté.
Disons-le.
Mmh. Alors, expliquez-nous, pour nous qui sommes des néophytes en la matière, la base de la création d'un vitral, le matériel, la composition, comment ça se passe?
Eh bien, c'est le dessin. La base, c'est le dessin. Il faut savoir dessiner, faut avoir des idées, il faut avoir beaucoup vu, beaucoup lu. Et on dit souvent qu'un artiste, c'est un peu une éponge qui prend tout et qui ressort certaines choses. Ouais. Je crois que c'est un peu vrai.
Ouais.
Vous voyez, par exemple, mes vacances, c'est de faire beaucoup de croquis. J'adore faire des croquis de rochers parce que je trouve qu'il y a des rythmes, il y a des visions, il y a des lumières. Et je suis très attaché aux lumières.
Hein.
L'ombre et la lumière, c'est très important pour moi. Donc tout ça, c'est le dessous qui sert à traduire une idée en lumière.
Mm-hmm.
Mais la base, c'est le dessin.
C'est le dessin. Et ensuite, la matière, c'est le verre, bien sûr.
Quand je dis le dessin, c'est le dessin. Ça, c'est aussi bien la peinture, hein. La peinture à l'huile, la peinture à l'eau, enfin, sous tous ces aspects.
Mm-hmm.
Et alors, en plus, oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand je fais une maquette en couleur, moi, je vois à peu près, je me rends compte de ce que ça va donner sur place après, parce que le verre va magnifier tout ça, va donner encore plus de vie et d'importance. Alors que pour les personnes qui nous font confiance, il faut qu'ils fassent confiance même en disant oui, c'est ça, mais ça sera encore mieux.
D'accord. Et alors, ce qui tient le chaque vitrail entre eux, c'est du plomb. Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs techniques. Et si vous voulez, la technique ancienne, la technique du Moyen-Âge, oui. C'est du verre de couleur. Et à chaque fois qu'on change de couleur, on a un plomb. Donc, il y a une résille de plomb importante. Petit à petit, les verriers ont fait des verres de plus grande dimension permettant d'intervenir plus avec des grisailles, des émaux cuits au four sur des morceaux de verre plus grands. Et puis, il y a une technique qui est apparue juste après-guerre et mon père a été un de ceux qui a beaucoup aimé cette technique, c'est la dalle de verre.
Oui.
D'ailleurs, c'est la dalle de verre qui a été utilisée pour les vitraux de Carvignac.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est un verre qui fait 2 cm d'épaisseur, coloré dans la masse, par les verreries de Saint-Just-sur-Loire, et que nous cassons au marteau d'après des calibres. Et ensuite, les morceaux de verre sont posés sur une table et on coule un béton armé autour de ces verres.
D'accord. Donc c'est très minutieux, c'est très pointu.
C'est très pointu, toutes ces techniques, et il faut prendre son temps. On est encore un métier, c'est ce qui étonne beaucoup nos visiteurs qui nous demandent « Mais combien de temps mettez-vous » Et je réponds « Il faut le temps qu'il faut. »
Un certain temps.
Un certain temps, et il ne faut pas avoir peur quelquefois de recommencer.
Bien sûr. Est-ce que les ateliers Jacques Loire ont été ou vont être contactés pour Notre-Dame de Paris?
Oui. Nous faisons partie de ceux qui... On est un certain nombre d'ateliers pour participer à ce chantier un peu triste. Mais bon, c'est la vie et on est heureux de pouvoir participer, je l'espère, à cette restauration.
Il va falloir le restaurer, nettoyer les vitraux, les nettoyer.
Très certainement. Oui. Mais tout ça, ça va être assez long parce qu'il faut prendre beaucoup de précautions.
Imagine. Donc 5 ans, ça vous semble très court?
Vous savez, je crois qu'il faut... Enfin, moi, je suis plutôt d'accord qu'il faut donner une date courte.
Il faut avancer, bien sûr.
Pour avancer plus vite.
Bien sûr.
Mais il y aura... On peut penser que certains aspects de restauration ne seront pas finis dans 5 ans.
Oui.
Mais l'important, c'est de démarrer très vite. Et puis de voir, là, c'est le problème de tous les architectes qui sont en charge de ça, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On va être très encadré pour toutes ces restaurations, comme on l'est quand j'ai eu la chance de restaurer des vitraux de la cathédrale de Chartres.
Oui.
C'est très suivi par les monuments historiques.
Imagine. Alors peut-on, parce que pour les auditrices, auditeurs, cela peut les intéresser, peut-on visiter vos ateliers quand et où?
Oui, alors nous sommes à Faubourg de Chartres, à Lèves.
À Lèves, oui.
Donc c'est à 4 km de la cathédrale. Notre atelier est visible tous les vendredis après-midi à 2h30 précises.
Oui.
Il y a une visite que l'on fait à tous ceux qui veulent bien venir.
D'accord.
Et puis,
ce rendez-vous?
Non, là, non. C'est tous les vendredis.
Bon,
il vaut mieux s'assurer, téléphoner avant à l'atelier pour être sûr qu'il n'y a pas de jour férié, etc.
Bien sûr.
Mais également, on accepte des groupes qui, voulant venir, prennent rendez-vous. Là, et c'est une visite payante.
Et est-ce qu'il y a une boutique vers la cathédrale où on peut...
Oui, alors nous avons une galerie du vitrail qui est place de la cathédrale, du côté nord, où nous présentons un certain nombre de vitraux, bien sûr, de petits vitraux qu'on peut emmener chez soi, de projets pour des grands vitraux aussi. Et puis, on a toute une bibliothèque, une librairie sur ce qui concerne le vitrail.
D'accord. Bien, écoutez, sans doute cela peut-il intéresser nos auditrices et auditeurs.
Ils seront les bienvenus.
Eh bien, écoutez, moi, la première, voilà. Je suis allée à Chartres il n'y a pas très longtemps et je ne savais pas et j'y retournerai pour aller voir et l'atelier et la boutique. Dans l'immédiat, quels sont vos grands projets, si vous pouvez en parler?
Eh bien, j'ai un grand projet pour le Japon, j'ai dû vous en parler tout à l'heure.
Oui.
Pour une école d'infirmières, on m'a demandé de réaliser 4 grands vitraux de près de 7 mètres de haut chacun.
Ah oui.
Et là, on m'a laissé. Alors, vous voyez, c'est chaque vitrail, pour chaque fois, c'est un cas différent. Les responsables de cette école sont venus avec des dessins de kimono. Et en me demandant si je pouvais m'en inspirer. Donc, j'ai retraduit ces dessins-là dans des ballons, puisque j'ai eu la chance d'aller quelquefois au Japon. Et ils sont très. Le ballon pour eux est très important, les cerfs-volants, oui. Tout ce qui s'envole. Donc je l'ai traduit dans mes maquettes et ça leur a plu. Mais vous voyez, pour ce travail, j'ai réalisé 4 maquettes et c'est un travail qui a commencé depuis 2016 et que j'attaque seulement maintenant parce que il faut du temps de réflexion.
Et donc ensuite, vous allez aller au Japon et élaborer la chose.
Voilà. Oui. Enfin, tout se fait en France. Hein.
Tout se fait en France, oui.
Et je l'expédie, on l'installe là-bas.
Vous n'y allez pas vous-même ?
Oh, si, j'irai, mais si vous voulez, tout le travail se fait en atelier à Chartres, enfin à Lèves, et tout est expédié par panneau, comme toujours dans ces problèmes pour ces vitraux. On ne peut pas faire des vitraux de 7 mètres de haut d'un seul morceau, donc c'est réalisé par panneau, transportable, manutentionnable.
Oui. Pour conclure, Jacques Loire, est-ce que vous êtes toujours dans le, comment dirais-je, dans l'approche, dans la mémoire, dans le conseil, dans la perpétuation, dirais-je, du travail de votre père ?
Oui, pas forcément du travail de mon père, mais du travail en lui-même, du travail de Maître Verrier.
Oui.
J'ai eu la chance de pouvoir transmettre à mes deux fils.
C'est un bel héritage en même temps.
Et j'ai été nommé maître d'art pour cette transmission à mes deux fils, ce qui m'a fait plaisir. Et ce qui me passionne le plus, ce sont les prochains projets, les prochaines commandes.
Oui,
je vis plutôt dans l'avenir de tout ce qui va arriver. Et de tout ce que je pourrais encore faire.
Bien sûr. Est-ce que des particuliers, quand je dis particuliers, c'est pour des maisons particulières, vous avez des commandes, ça arrive aussi.
Mais bien sûr, bien sûr. Mmh. Oh, il y a même des choses très, très touchantes. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, des gens qui construisaient leur maison et qui voulaient absolument un vitrail. Mais vous savez, quand on construit, le budget est limité.
Oui.
Eh bien, ils ont dit, on fait le vitrail, et tant pis, pendant un certain temps, on n'aura pas tout tel et tel outil, machine à laver, etc. Parce que si on ne fait pas le vitrail maintenant, on le fera peut-être pas plus tard. Et c'est pas parce que c'est petit que c'est moins intéressant. C'est même quelquefois plus compliqué quand c'est petit.
J'imagine, parce qu'il y a peut-être plus de manipulation, puis c'est surtout peut-être plus pointu, il faut faire bien plus...
Et puis, si vous voulez, quand même, le vitrail est un art monumental. Hein, ça s'adresse...
Mais il faut que il faut que le regard puisse s'arrêter dessus, qu'on le voit. Il faut que ce soit visible de loin et par tous, et par toutes.
Je veux dire qu'en France, on est gâté par toutes nos églises, nos cathédrales, où il y a des réseaux de verrières qui se développent.
En tout cas, ça a été un vrai plaisir de ce livre magnifique Vitraux sur l'œuvre de votre père que vous perpétuez avec votre création à vous, vos innovations et votre innovation et puis vos fils aussi qui continuent cette belle saga et aventure familiale.
Et qui continuent avec des techniques plus contemporaines de thermoforage. Thermoformage, de fusing, de découpe au jet d'eau. On est un métier du passé, mais on a la chance de pouvoir se servir des techniques actuelles.
Oui. Du passé, du présent et de l'avenir, finalement.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Merci Jacques Loire. Donc je rappelle à tout à chacun qu'on peut vous voir votre atelier à Lèves et puis trouver votre boutique côté nord, cette belle cathédrale de Chartres.
Absolument.
Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir.
Pour moi également, de parler d'une chose que j'aime beaucoup.
Oui, je l'entends bien. Et puis, beau projet donc, pour le Japon et pour tous les autres.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.